Salut Daniel, salut toute l'équipe. J'appelle, on est samedi soir, il est un peu plus de 11h du soir. Je viens d'allumer la télé sur un quart d'heure et sur le Téléthon. Je trouve catastrophique la façon donc dont les gens sont culpabilisés sur la douleur des enfants, les trucs, les machins, tout ça pour donner des sous. Ben moi j'ai une petite qui a 5 ans et qui est handicapée. Donc voilà, donc ce que je peux dire c'est que effectivement il y a beaucoup de choses à faire de ce niveau-là. Moi ce que j'aurais aimé c'est que Anne Isabelle là que je viens de voir à la télé, que j'ai vu le week-end dernier applaudir l'élection de Sarkozy à son truc, effectivement on a l'impression que je mélange tout, mais non, je mélange pas du tout, parce que le gouvernement de Monsieur Sarkozy dans lequel il est, hein, c'est pas de lui directement mais dans lequel il est, mais faut pas oublier que depuis 2 ans là il sabre tous les crédits des chercheurs, et je suis absolument pas chercheur, que les choses soient claires. Mais que la recherche fondamentale, c'est aussi hyper important pour tout ce qui est le génétique, etc., etc. Donc quand je la vois qui le week-end dernier applaudit Sarkozy et qui là vient me faire pleurer à la télé avec beaucoup de culpabilité pour que les gens donnent, les gens, on les habitue toujours au petit bout de la lorgnette. Moi l'année dernière, quand je suis arrivé dans le village où je viens d'être là, qui est un relativement petit village, eh bien au bout de 3 semaines où ma gosse elle était à l'école, comme elle était différente des autres à 5 ans, eh ben j'ai eu une lettre envoyée à l'inspection par des parents d'élèves qui voulaient déjà la faire exclure de l'école parce qu'elle est, elle était différente. Et je ne doute pas que ses parents, bien sûr, ils avaient donné quelques euros au Téléthon pour se donner bonne conscience avec la culpabilité qu'on l'aimait. Tout ça, ça ne tire pas les gens vers le haut, ça les tire vers le bas. Les gens, ils vont donner aujourd'hui au Téléthon, et demain, la différence dans la rue, de toute façon, ils la regarderont pas, ils sauront pas quoi en faire parce qu'ils sont gênés, etc., etc. Et les gens, ça les fait toujours pas évoluer, quoi. Allez, j'en ai marre qu'on nous prenne pour les vaches à lait et qu'on construise des mirages à la place de faire de la recherche fondamentale. Allez, ciao, ciao, bon courage à tous, portez-vous bien.
Bonjour, je suis pas un fidèle auditeur, mais ça fait quelques jours que, par hasard, je suis tombé sur les ondes sur votre émission qui parle d'Éthiopie, où j'ai eu la chance de vivre, y passer 2 fois 2 mois quand j'étais très jeune, au lieu de faire là en tant que coopérant juste après avoir fait un période de VSN. Et c'est vrai que j'étais dans un petit village qui était au-dessus d'Alemaya, dans une zone qui n'était pas encore villagisée et qui n'a jamais été parce que trop pauvre, à travailler avec des agriculteurs qui utilisent les moyens de traction animaux. Et j'ai tout à fait retrouvé l'ambiance et avec les gens, la façon de vivre, les réactions, c'était assez fantastique. Et je vous félicite. Voilà, bonne journée, au revoir.
Oui, bonjour. Oui, Daniel, je voulais te parler, et puis toi et tes auditeurs, tes chers auditeurs dont je suis, d'une manifestation extrêmement culturelle qui a eu lieu sur notre bonne ville de Tours. C'était samedi, avant-hier, donc. Alors, de quoi s'agissait-il? Oh, ben, elle est belle, ta miss, là. Combien donc elle fait? Oh, ben, attends, et c'est qu'elle fait 1m75, hein. Oh, ben, elle est pas si bien que la mienne a fait 1m78. Ah oui, mais t'as vu, hein, elle fait un tour de poitrine d'au moins 90, 95, si c'est pas un peu plus. Ouais, mais attends, t'as vu sa cloupe à la mienne? Hein, faut pas exagérer, hein, quand même. Oui, voilà, il s'agissait de l'élection de Miss Monde, de Miss France, excuse-moi. On n'en est pas encore à Miss Monde, mais ça viendra. De Miss France, oui, avec un monde fou, 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 avec des entrées dépassant toute imagination, des subventions données par la mairie de Tours. Oui, oui, oui. Vraiment, on était peut-être, je ne sais pas, moi, 50, peut-être 100, à construire cette manifestation-là, considérant qu'il y avait de l'argent à donner dans bien d'autres domaines, parce que sur notre ville, ben, c'est comme partout ailleurs, la précarité s'installe. Il y a des gens qui vont pas faire Noël en chantant encore cette année, hein. Et puis alors quand il s'agit par exemple de loger des demandeurs d'asile qui sont sous des tentes trouées, on ne trouve pas l'argent. Alors on est outré, tu vois. Vraiment, c'est pour ça que je voulais le dénoncer aujourd'hui, parce que je me dis il y a vraiment 2 poids 2 mesures dans ce pays. Et quand je pense qu'en plus cette mairie est socialiste, alors tu vois changer le monde en 81, on en a rêvé. Ben oui, ben on rêve plus, hein. On est dans la réalité. Il faut être réaliste. Il faut faire des fêtes pour le bon peuple. Du pain et des jeux. Et encore du pain, pas pour tout le monde.
Bonjour Daniel. Je vous envie d'être au Venezuela, au pays de Chavez, le seul président qui me donne de l'espoir. Aujourd'hui, je suis allée à la manif pour les chômeurs. Merci de m'avoir prévenu, je l'ignorais. On était environ 5000. Au revoir.
Ouh, ah, Chavez no se va. Ouh, ah, Chavez no se va. Combien de fois, par combien de voix, ces mots ont été scandés au Venezuela. Chavez, 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 Chavez si, Chavez no, Chavez le sauveur, Chavez le despote depuis... Maintenant, plusieurs années, depuis 98, c'est comme un réveil. Chavez, Chavez, Chavez qui sonne chez le voisin. Ouais, un réveil qui sonne chez le voisin. Ça réveille, ça agace et on ne peut pas l'éteindre. Ça réveille les vieilles images d'une Amérique latine épique avec ses révolutions romantiques et tropicales de Zapata à Marcos, de Guevara en Nicaragua. Ça réveille aussi de voir et de sentir un souffle nouveau, des cris nouveaux devant la faillite des politiques ultralibérales imposées par le FMI. Ces cris, ces souffles qui demandent moins d'inégalités, moins d'injustice, Brésil, Argentine, Uruguay, Bolivie et Venezuela. Chavez, 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 le réveil continue de sonner et on ne peut pas l'éteindre depuis 1998 malgré la tentative de coup d'État d'avril 2002, malgré les boycotts patronaux, malgré toutes les déstabilisations appuyées évidemment par le grand méchant Bush et la CIA, eh bien Chavez est toujours là. Chavez si, Chavez no, Chavez oui, Chavez non. Et ce Venezuela connu pour ses misses et son pétrole est devenu le nombril du monde politique. Il faut choisir son camp et répondre à l'injonction Chavez le sauveur ou Chavez le despote. En France, ceux qui, jadis, ont soutenu des révolutions lointaines et de grands soirs d'outre-mer, errent comme des spectres pathétiques de chats échaudés dans le purgatoire des illusions perdues, entraînant derrière eux de bruyantes casseroles qui s'appellent Staline, qui s'appellent Roménie, qui s'appellent Castro, qui s'appellent Pol Pot. Alors, aujourd'hui, soutenir ce militaire démago et sa révolution bolivarienne, personne n'est très chaud. Personne n'est très chaud, sauf le diplo. Le diplo est très chaud. Le diplo en pince pour Chavez. Le monde diplomatique, ouvertement, carrément, soutient Hugo Chavez et sa révolution bolivarienne. Il n'est pas le seul dans la presse française. Il y a eu un soutien et puis il y a ceux qui se sont ralliés, effectivement, au moins à prendre en considération ce qui se passe dans ce pays où, il faut le rappeler, les inégalités sont particulièrement violentes. 80% des Vénézuéliens vivent en dessous du seuil de pauvreté, face à 20% de classe moyenne ou de riches, très riches, monstrueusement riches, tout ça grâce à une rente pétrolière. Le Venezuela est le cinquième producteur de pétrole au monde, 15% de l'approvisionnement des États-Unis en matière de pétrole vient du Venezuela, c'est dire la rente qui est celle de ce pays, et la très mauvaise répartition de cette richesse entre les habitants. C'est contre ces inégalités que les Vénézuéliens, dans leur majorité, ont poussé Chavez au pouvoir. Et c'est ce Chavez qui est toujours là, et que le monde diplomatique observe, et il faut bien dire, soutient, même si dans les papiers du monde diplomatique ces dernières années, il y a eu des bémols, il y a eu des craintes exprimées, il y a eu des critiques exprimées. Mais disons que, en gros, il y a quand même un soutien continué. On va en avoir la preuve dans l'émission d'aujourd'hui avec le monde diplomatique, avec Ignacio Ramonet, avec Bernard Cassen du monde diplomatique, enregistré ici à Caracas, où je me trouve, dans le cadre d'une rencontre des intellectuels et des artistes pour le soutien à l'humanité organisé par le gouvernement du Venezuela, le gouvernement de Chavez. Ces rencontres se sont terminées hier soir, dimanche, Et donc aujourd'hui, voilà cette émission tout à fait spéciale du monde diplomatique autour de cette révolution bolivarienne, de la personne d'Hugo Chavez et de cette polémique terrible dans ce pays, mais une polémique qui s'est répandue à travers toute la planète et qui ranime nos passions politiques.
Amigos, continuons con más de Venezolana de Televisión.
Salut, c'est Daniel Mermet. Là-bas, j'y suis en direct de Caracas avec Yvan Thiel, avec Antoine Chao et la fine équipe du monde diplomatique, Ignacio Ramonet et
Flight number two.
Bernard Cassel.
Arriving. Gobierno bolivariano.
Voilà, ça va être un numéro du monde diplomatique un petit peu exceptionnel aujourd'hui, puisqu'on est à Caracas. Et par la fenêtre, on a à peu près toute l'histoire de cette ville. Parce que dans le genre terre de contraste, c'est quand même pas mal. On est ici dans un grand hôtel assez luxueux et par les fenêtres, ben on voit à peu près tout, c'est-à-dire qu'on voit les bidonvilles, on voit des tours très hautes dont une dont toute la partie supérieure de cette tour a pris feu et brûlé, a été calcinée. Et ça donne une idée de violence, une idée de... Alors, le terme contraste ici est particulièrement caricatural. Et c'est ce qui se passe, hein, c'est ce qui se passe dans la réalité, c'est-à-dire qu'actuellement, il y a cette... Alors comment on va dire une révolution, Ignacio Ramonet, est-ce qu'on va dire une révolution ?
Je dirais une série de changements, une série de transformations sociales. Non, moi j'appellerais pas ce qui se passe ici une révolution, parce que révolution, on imagine que c'est à la fois une transformation très radicale de la hiérarchie du pouvoir et de la hiérarchie de la propriété. Et ici, disons, la structure de la propriété demeure. Et je veux dire, il ne faut pas oublier qu'on est dans un cadre capitaliste, démocratique, traditionnel, hein, d'une démocratie représentative. Et d'autre part, que la hiérarchie du pouvoir demeure. Il y a une opposition, il y a des médias extrêmement puissants, etc. Mais il y a une série de changements qui sont importants et qui touchent des éléments qui... Par exemple, pour la plupart des pays d'Europe occidentale, de l'Union européenne, sont des acquis très anciens. Par exemple, l'éducation des enfants, la santé, le partage des terres, évidemment, la production agricole. Et tous ces changements-là ne s'étaient pas faits dans ce pays. C'est-à-dire le fait de scolariser des millions d'enfants qui étaient donc exclus de l'école. En particulier une politique sanitaire qui puisse toucher l'ensemble de la population, ça également c'était pas du tout acquis. Il y avait des millions de personnes qui étaient exclues du moindre soin, qui n'avaient jamais vu de leur vie un simple médecin. Bien, les terres également appartenaient dans des latifundias extrêmement importants. Ici, il y a eu une réforme agraire très modeste, très très prudente, et avec des compensations tout à fait correctes. Et donc, par conséquent, ce sont des transformations sociales. C'est un programme qu'on appellerait en Europe social-démocrate modéré, mais qui, dans le contexte de l'Amérique latine, est une vraie révolution, mais au sens, je dirais, usuel du mot, non pas au sens politique du mot. Ici, c'est pas la révolution soviétique, c'est pas la révolution chinoise, c'est pas la révolution cubaine. Ce qu'on appelle la révolution bolivarienne, c'est un programme de réforme relativement modéré.
Ignacio Ramonet, on est frappé par la... c'est le mot est faible, la bipolarité de la société. Hein. Ici, il y a vraiment... pro-Chavez, anti-Chavez. On a l'impression qu'il n'y a presque rien au milieu. Alors, on nous dit, nous, on arrive là, on nous dit que l'agressivité, la tension entre les deux camps s'atténue un peu, mais ça reste extrêmement violent.
Disons, les deux camps sont des camps irréconciliables, pratiquement, actuellement. Ça fait déjà, tout de même, disons, 6 ans qu'il y a cette espèce d'affrontement. Dans une certaine mesure, l'opposition... pensait qu'elle allait l'emporter le 15 août dernier, lors du référendum révocatoire. Tout s'est joué là. Depuis, effectivement, elle est un peu sous le choc. Et pour ma part, je constate que les grands médias, qui ont été toujours très opposés, qui ont donné le ton, disons, de cette agressivité, les grands médias ont légèrement atténué les attaques systématiques et quotidiennes comme on pouvait les voir il y a encore 2 ou 3 ans.
Ignacio Ramonet, quand on dit deux camps, c'est pas deux camps équivalents en nombre.
Ben, c'est-à-dire le référendum révocatoire, qui est quand même, disons, l'élection à laquelle a participé le plus grand nombre de citoyens, a donné globalement, disons, 60-40, 60 en faveur de 59 en faveur de Chavez, 41 en faveur de l'opposition. Donc, on a maintenant à peu près une idée, disons, de la dimension de chaque camp. Hein. Les deux parties ont pu se compter finalement. Hein. C'est pour ça que je disais qu'en particulier l'opposition, qui s'était convaincue qu'elle allait l'emporter, parce que elle s'était énormément battue pour ce référendum révocatoire. Ce qui est d'ailleurs une bataille un peu paradoxale, parce que c'est dans la constitution bolivarienne, constitution bien sûr qui a été, imaginée, proposée par Chavez, et qui contient cet article tout à fait étonnant, qui fait que n'importe quel élu, une fois passé la moitié de son mandat, si une partie importante de ses électeurs, de ceux qui l'ont élu, considère qu'il doit remettre son mandat en jeu, doit le faire. Bon, ça n'existe pratiquement dans aucun pays que je connaisse. L'opposition a réclamé que cet article s'applique au président, ce qu'il a finalement fait, et il l'a emporté, alors que l'opposition croyait avoir là l'argument total. Donc c'est ça, les deux camps, qui ne sont pas évidemment de taille égale, mais une opposition de 40%, c'est tout à fait important, je veux dire, le pouvoir.
C'est tout à fait important, et c'est une opposition qui est puissante, qui dispose de moyens, qui dispose des médias. Il a une opposition de gauche, Ignacio Ramonet, que vous connaissez bien. Il a quand même du monde contre lui.
Il a contre lui, disons, le patronat. Il faut pas oublier que le coup d'État du 11 avril 2002 est dirigé par le patron des patrons.
Le Célière vénézuélien.
C'est-à-dire monsieur Carmona, qui devient
dictateur d'un jour.
Voilà, pour deux jours. Il a donc les milieux d'affaires. Il a les syndicats, les grands syndicats officiels, qui ont été très corrompus, mais la Confédération du Travail vénézuélienne est dans l'opposition. Et elle a conduit des grèves extrêmement dures contre le pouvoir. Il a contre lui, ce qu'on appelle la bourgeoisie, et une grande partie des classes moyennes, qui ne sont pas très importantes, mais qui comptent beaucoup sur le plan intellectuel. Beaucoup d'intellectuels, bien entendu, les intellectuels les plus en vue, et qui étaient souvent, qui se réclamaient de l'ensemble des gauches, voire de l'extrême gauche, des anciens guérilleros, etc. D'ailleurs, certains de ces anciens guérilleros, en particulier Petkov, pour ne pas le nommer, qui dirige ici un des journaux les plus agressifs, les plus violents contre le président, qui est un ancien guérillero, et ce trotskiste, ou ex-trotskiste, est devenu ministre du président démocrate chrétien, Rafael Caldera, qui était juste le président antérieur au président Chavez, et il était ministre des privatisations. Et il faisait des voyages à travers le monde pour dire aux investisseurs, venez acheter nos richesses. Bon, vous voyez que les conversions ont été importantes. Alors, une grande partie, de ces intellectuels sont effectivement hostiles au président. Donc, l'opposition est très importante, et je crois d'ailleurs, et le pouvoir d'ailleurs le fait, qu'il faut tenir compte qu'il y a cette opposition-là. L'une des caractéristiques de ce qui se passe ici, c'est que ça se passe dans un cadre démocratique très actif. Très actif. Et que une des caractéristiques également de ce qu'on appelle la révolution bolivarienne, c'est que le caractère démocratique de ce qui se passe a été renforcé par la Constitution. Ne serait-ce que par cet article dont je parlais avant, qui est un article qui permet à la population, c'est-à-dire aux électeurs, de renvoyer les élus une fois la moitié du mandat échu, s'ils ne sont pas contents. Eh bien, ce qui a sauvé au moment du référendum révocatoire ce gouvernement, c'est que il y avait dans ce pays des millions de personnes qu'on pouvait appeler des invisibles, qui étaient donc en grande partie dégoûtées par le fonctionnement de la politique ici, puisque bon, les changements politiques se faisaient entre deux partis, comme on sait, les sociaux-démocrates et les chrétiens-démocrates, et que leurs conditions ne changeaient pas. Et non seulement ils sont devenus visibles, mais ils sont devenus citoyens. Et puis d'autre part, il y a maintenant une politique d'éducation, une politique de santé, une politique, si vous voulez, d'activité populaire. Il y a des programmes d'alphabétisation d'adultes. Ici, toutes les écoles sont ouvertes les samedis et les dimanches, toute la journée, uniquement pour l'alphabétisation des adultes. Et il y a des cas tout à fait spectaculaires, bien entendu, des personnes de 60, 70 ans qui apprennent pour la première fois à lire et qui découvrent le monde, bien entendu.
Que tú te levantes. haces, América Latina obrera, no sé por qué no lo haces. El yanqui teme a la revolución, el yanqui teme grito, yanqui gojón, yanqui gojón. Y viene remontando el Amazonas, el grito rebelde del Carioca, y viene a unirse con su hermano, el obrero venezolano. América Latina obrera, América Latina obrera, América Latina. Levanten en tus manos la bandera de la revolución, América Latina obrera, y griten con fuerza, Yankee Go Home, Yankee Go Home, Yankee Go Home.
Alors, Bernard Cassel, moi je voudrais qu'on parle quand même de la personnalité d'Hugo Chavez, parce que c'est là-dessus que toute la presse mondiale, et par exemple la presse française, se focalise. Hein. Et on a assisté à une conférence du président Chavez. C'est vrai que c'est un peu délirant, son discours est part dans tous les sens. Il cite des personnages variés, divers. Ça va de Nietzsche à Federico Garcia Lorca, en passant par Ignacio Ramonet, qui fait partie des auteurs favoris d'Hugo Chavez. On est un petit peu perplexe face à ce personnage. Comment vous le défendez, évidemment?
Moi, ce qui me frappe, c'est que c'est une personne cultivée, modeste, qui écoute, qui demande des avis, qui connaît ses limites, qui a une vision stratégique de l'Amérique latine. Il n'inscrit pas la révolution bolivarienne dans le seul cadre du Venezuela, mais il a une vision de l'Amérique latine, de l'intégration latino-américaine. On l'a dit tout à l'heure, il a proposé, par exemple, une fusion entre les compagnies pétrolières nationales PDVSA au Venezuela et Petrobras au Brésil, pour faire Petro-America. Il est aussi en faveur d'une chaîne d'information latino-américaine. Donc, il voit large, en quelque sorte. Alors, sur le plan humain, le charisme de Chavez, qui est indéniable, vous avez pu le constater, vous aurez aussi remarqué qu'il ne le canalise pas vers sa personne. Il le canalise vers la Constitution. Il a toujours, d'ailleurs, une Constitution dans sa poche, comme beaucoup de Vénézuéliens, entre parenthèses, vous pourrez le voir. Et il dit, voilà, vos droits sont là, dans ce texte. Vous êtes des citoyens, vous avez des droits. Et les gens les revendiquent ensuite, ces droits. Ils disent, attention, c'est l'article 123 de la Constitution qui dit ça, que vrai, ils connaissent très très bien la Constitution. C'est un petit modèle. D'ailleurs, les marchands ambulants dont nous parlions vendent des constitutions, ou des bouts de constitution. Alors, les discours de Chavez, qui sont généralement longs, et en général très drôles, parce qu'il a...
Mais longs.
Ah, ils sont longs, mais ils ne lassent pas. Les gens écoutent, parce qu'il y a toujours quelque chose. Parfois, vous avez vu, il se met à chanter, il termine une phrase et il enchaîne la suivante par une chanson populaire que tout le monde connaît. Puis il revient à la prose naturelle. Mais il faut bien penser qu'il ne s'adresse pas aux journalistes occidentaux. Quand il fait un discours, il s'adresse à l'ensemble du peuple vénézuélien. Et il parle un langage que tout le monde comprend. C'est un extraordinaire éducateur. On parle souvent d'éducation populaire, mais Chavez le fait.
Buenas noches a todas, buenas noches a todos.
El ciudadano, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, comandante Hugo Chávez Frías.
Primero que nada, a nombre de todo nuestro pueblo y a nombre del gobierno bolivariano, sean ustedes bienvenidos, sean ustedes bienvenidas a esta tierra, a esta patria. Los Estados Unidos de Norteamérica parecen destinados a plagar la América de miserias a nombre de la libertad. Simón Bolívar, 1828. Aquella frase profética, lamentablemente. Es importante en esta cadena nacional que estamos transmitiendo a todo el país por radio y televisión.
Pour vous, c'est pas un démagogue. Il n'y a pas de démagogie chez Chavez.
Non, absolument pas. Ou alors, si on considère que parler pour le peuple, c'est de la démagogie. Évidemment, on lui donne l'étiquette de populisme, national populisme, mais ce sont les gens qui détestent les peuples qui disent ça. Chavez, il est ancré dans son peuple. Et si vous avez pu comprendre l'affection qu'il génère. Et c'est pas un culte de la personnalité au sens stalinien du terme. Absolument pas. On lisait tout à l'heure, Ignacio l'expliquait, que jusqu'à ces dernières années, il y a 20 ou 30% de Vénézuéliens qui occupaient 100% de l'espace public et qui d'un seul coup voient apparaître les 70 autres % qui n'avaient jamais existé et qui se retrouvent effectivement minoritaires. Donc le processus est solide parce qu'il repose sur une profonde adhésion populaire.
Une profonde attente populaire qui précédait Chavez.
Qui savait pertinemment qu'elle n'aurait aucune expression politique. L'alternance au pouvoir des sociodémocrates et des démocrates chrétiens, c'était du pari au même. Là, c'est différent. Il a lancé un processus qui est même, je dirais, hors de sa portée maintenant. Le processus est lancé et personne, ni même Chavez, à supposer qu'il en ait l'envie, ne pourrait le faire.
Ignacio,
la phrase que répète Chavez, c'est « Le moyen le plus efficace de combattre la pauvreté, c'est de donner du pouvoir aux pauvres. » Quand les pauvres ont du pouvoir, parce qu'ils sont éduqués, parce qu'ils sont citoyens, parce qu'ils sont en bonne santé, parce qu'ils votent, parce qu'ils connaissent, parce qu'ils lisent, à ce moment-là, voilà, peu à peu, eh bien, la pauvreté va reculer. Et cette idée-là, eh bien, c'est une idée qui fait que son contact avec les gens, bien sûr, comme d'autres dirigeants latino-américains, on pense à Perón, on l'a souvent comparé à Perón, mais il faut voir... Perón a été souvent critiqué, et parfois d'ailleurs à juste titre, mais aujourd'hui, nous parlons en 2004, l'Argentine continue finalement d'être gouvernée par un péroniste, et ne peut pas se passer du péronisme. C'est-à-dire, Perón a tellement marqué un pays aussi sophistiqué que l'Argentine qu'on ne peut pas s'en passer. Vous disiez tout à l'heure, il y avait une demande, bien sûr qu'il y avait une demande au Venezuela, mais curieusement la popularité de Chavez elle a grandi pendant qu'il était en prison. Chavez est sorti de l'anonymat quand il s'est révolté contre une situation qui était injuste.
On parle de 92, le coup d'état de 92.
Il y a eu une tentative de coup d'état parce que il avait vu ce qu'était la répression ici. Il y avait eu des milliers de personnes assassinées. L'armée avait tiré contre les gens. Des bidonvilles.
89, hein, 1000 morts.
2000 morts. Voilà. Et donc, par conséquent, il en avait été absolument choqué, parce que c'était en plus un gouvernement social-démocrate, le gouvernement de Carlos Andrés Pérez, qui avait fait ça alors qu'il avait fait une campagne électorale en promettant un programme de transformation sociale que les gens attendaient. Et dès qu'il est arrivé au pouvoir, dès qu'il a été élu, il a annoncé ce qu'on appelait à l'époque une thérapie de choc, une thérapie ultralibérale de choc. Et la révolte a été immédiate. Bien, pendant qu'il était en prison, une espèce de culte s'est fait autour de lui. Il y avait une attente extraordinaire. Et il a été très modéré pendant très longtemps. Ce n'est que lorsque des coups lui ont été portés, comme on dit, que finalement le processus a avancé.
Là, est-ce que ce peuple vénézuélien, on parlait de son attente, tiendra longtemps, ne risque pas d'être déçu?
Il y a une élection présidentielle en décembre 2006. À laquelle le président Chavez va se présenter, et il rendra compte de son bilan. On est dans un cadre totalement démocratique, voire même beaucoup plus démocratique que dans certains autres États latino-américains qui sont gouvernés par, disons, des dirigeants qui n'ont pas mis en marche des transformations sociales comme celle-ci.
On nous en voudrait, Ignacio Ramonet, de ne pas vous parler de Cuba. On sait dans l'opinion française, ou du moins dans une partie de cette opinion, les critiques faites au régime de Cuba, les liens que le monde diplomatique peut avoir avec Cuba et les liens que vous avez avec Cuba et avec Fidel Castro. J'en parle parce qu'ici, il y a une interférence entre le Venezuela actuel et Cuba, notamment à travers des échanges de médecins cubains nombreux qui viennent ici soutenir le programme de santé, la mission de santé. Parlez-nous de ces relations du monde diplomatique avec Cuba et de vos relations avec le régime cubain.
Et alors, c'est très simple. Et je vous remercie de poser cette question, parce que c'est, si vous voulez, on peut pas être un journal comme Le Monde Diplomatique et avoir pris un certain nombre d'initiatives comme nous avons prises sans avoir des ennemis. Et sans que vos ennemis vous calomnient, et sans que vos ennemis conduisent une bataille ignoble, tous azimuts, pour tenter précisément d'accréditer ce genre de d'idées. Le monde diplomatique, ceux qui veulent savoir ce que le monde diplomatique pense de Cuba, n'ont qu'à lire les articles que nous publions sur Cuba. C'est la seule position que le monde diplomatique défend, que ce soit sur Cuba ou sur n'importe quoi. Et si vous lisez les articles que nous avons publiés, nous en avons publié un certain nombre, pas excessivement d'ailleurs, et moi-même, qui suis journaliste depuis plusieurs décennies, je crois que j'ai écrit dans Le Monde Diplomatique 2 ou 3 articles sur Cuba au maximum, et je renvoie tous ceux qui veulent les lire au CD-ROM qui paraît ces jours-ci.
Une petite page de publicité.
Une petite page de publicité, mais enfin, je veux dire, nous sommes pour un journalisme de fait, de précision. Eh bien, je crois que, voilà, ceux qui veulent être, qui sont sensibles à ces calomnies qui ont été lancées contre nous, dans une campagne qu'on peut comprendre, parce qu'on est dans un débat. Et par conséquent, je veux dire, le monde diplomatique a fait trop de choses pour ne pas s'exposer précisément à des campagnes aussi ignobles que celle-là, eh bien, peuvent voir ce que nous avons écrit, moi personnellement, et le monde diplomatique sur Cuba. Nous avons toujours dit qu'on s'intéresse comme un journaliste à Cuba. Il y a des choses qui sont intéressantes. C'est un pays, indiscutablement, qui ne laisse personne indifférent. Et donc, nous avons dit, il y a des choses que nous avons dites. Par exemple, nous avons dénoncé, critiqué, bien entendu, les arrestations, les exécutions qui ont eu lieu l'année dernière, en 2003. On se félicite de la libération, bien entendu, j'en profite pour le dire, de Raoul Ribeiro. On peut dire que dans la mesure de ce que nous pouvons avoir fait, on a essayé d'encourager ce type de mesures. Et par ailleurs, il est évident que ce pays, on l'observe comme beaucoup de journalistes, et nous disons, il y a des aspects qui sont tout à fait critiquables et d'autres aspects qui sont tout à fait intéressants, en particulier qui répondent à des nécessités réelles. Donc, en ce qui concerne le monde diplomatique et en ce qui me concerne, sur Cuba, un regard de journaliste intéressé. Deuxièmement, précisément, que fait le Venezuela à l'égard de Cuba? Eh bien, on observe ici, on le répète, ici, les médias sont totalement libres. La liberté d'expression est totale. La liberté d'opinion est totale. La liberté de réunion est totale. Il n'y a pas un journaliste en prison à aucun moment ici. Il n'y a pas de procès. Il n'y a aucun journal qui a été fermé. Les seuls journaux, ce sont d'ailleurs des stations de radio qui ont été fermées, l'ont été pendant les 48 heures du régime soi-disant libéral du président Carmona. Que fait le président Chavez et son gouvernement? Eh bien, ils estiment qu'il y a à Cuba, en matière, disons, de réalisation sociale, en ce qui concerne l'éducation, en ce qui concerne la santé, et en ce qui concerne le sport, et des réalisations dont on peut s'inspirer. Ce n'est pas pour ça que le gouvernement Chavez n'a rien nationalisé, strictement rien. Donc, il y a une réforme agraire modérée, qui n'est pas une étatisation des terres. Eh bien, donc, par conséquent, ils ont pris de Cuba ce qui est important, et à mon avis, ils ont très bien fait, parce qu'on voit bien précisément quel pays pouvait fournir au Venezuela 20 000 médecins. Mais même l'Organisation mondiale de la santé n'est pas en mesure de fournir 20 000 médecins. Cuba l'a fait. Et Cuba envoie aujourd'hui des milliers de médecins dans des pays comme des pays africains, Haïti, etc. Ce sont des médecins, et je vous invite bien entendu à aller les voir, sont des médecins qui vivent dans des bidonvilles, chez les familles des bidonvilles, qui soignent les gens qui n'avaient jamais vu de médecin. Il y a ici une opération qui s'appelle l'opération Miracle, où l'on détecte les gens qui ont des cataractes et qui peuvent être soignés en 10 minutes d'intervention. Il y a plus de 5300 personnes qui ont retrouvé la vue ces derniers mois. Bien, c'est pas le régime cubain qui est importé. Ce sont un certain nombre de solutions dont il faut être totalement obtus pour ne pas voir que ce sont des solutions aujourd'hui positives et que si on les appliquait à l'échelle de l'humanité, on n'aurait pas le désastre humanitaire que nous avons. 3 milliards de pauvres, des 800 millions d'analphabètes dans le monde, etc. Est-ce que c'est normal, à l'heure d'aujourd'hui, d'avoir cela? Donc, précisément, le rapport que ce régime a avec Cuba, il est dans ces limites-là.
Avec Bernard Cassin et Ignacio Ramonet, toujours depuis Caracas. Il y a une chose qui devrait que vous parliez, c'est le populisme. Si José Bové passe dans une émission de Drucker un dimanche,
tout le monde, y compris certains collaborateurs du monde diplomatique, vont dire « populisme, il va se traîner, il va se compromettre dans des émissions vraiment bas de gamme ». Mais ici, Bernard Cassin évoquait la fameuse émission du dimanche « Allô, présidente » où Chavez va se laisser aller à des commentaires divers et variés, à chanter, à pousser la chansonnette, à prendre des gens au téléphone, etc. Là, on va pas parler de démagogie. On va trouver que c'est un processus révolutionnaire ou pas qui est en marche. Ignacio ?
Hugo Chavez a sa façon à lui de s'exprimer, qui est effectivement... vu par un esprit cartésien, une façon, disons, tropicale, hein, façon baroque de s'exprimer. Et ceci étant, il y a, je veux dire, Bernard le soulignait tout à l'heure, il y a chez lui la volonté, une volonté d'éducation populaire, une volonté de mobilisation populaire sur des thèmes très sensible, hein, disons. L'une des caractéristiques de Chavez, qui est un homme effectivement très cultivé, hein, et notamment en matière de stratégie et de géopolitique, c'est que c'est aussi quelqu'un qui s'exprime beaucoup avec sa sensibilité d'être humain, etc. Et il parle très souvent, par exemple, de religion, et de religion très populaire, car il y a une chose qu'on n'a pas dit.
Ça en a choqué plus d'un que je connais, qui est très proche de l'équipe de la Bastille Suisse, c'est son côté bigot, cubéni. Quand il était en prison après le coup d'État de 92, c'était Jésus-Christ qui était en prison.
Oui, il a cette dimension. C'est-à-dire, Chavez n'est pas marxiste, hein, ou n'est pas léniniste. Chavez, c'est, j'ai dit tout à l'heure, il est en train d'animer une série de transformations sociales, de réformes sociales, qui ont été faites, par exemple, en France, sous la Troisième République. Donc, nous en sommes là. Disons un ensemble de à la fois de Léon Blum et de Jules Ferry. C'est ça, Chavez. Bon, et donc par conséquent, il vient avec ce mélange, disons, de culture évangélique. Il est catholique, mais la culture des évangiles, le sermon de la montagne, le projet christique finalement qui est assez de pain pour tout le monde, que les aveugles voient, que les gens soient cultivés, etc.
Tout ce dans quoi baigne la culture populaire vénézuélienne.
Bien sûr, et ça parle aux gens. Lui, et Bernard disait tout à l'heure qu'il a toujours une constitution avec lui, mais il a un crucifix avec lui.
On l'a vu son crucifix.
Et il cite le bon Dieu
comme,
en permanence.
Comme je vous vois, j'ai vu le crucifix de Chavez.
Et il parle, il se réfère finalement, je dirais même que la philosophie qui donne une colonne vertébrale, c'est celle des évangiles. Il est dans une certaine mesure dans la lignée de la théologie de la libération. Et globalement, les dirigeants transformateurs en Amérique latine ne sont jamais très éloignés de cette voie-là. Donc c'est ce mélange finalement de culture populaire, de parler populaire, etc. Son émission est faite souvent d'appels téléphoniques. Les gens appellent et disent voilà, j'essaie d'avoir ma maison, puis j'ai pas encore le droit, ou j'essaie d'avoir mon lopin de terre. Et donc, par conséquent, on parle de la vie des gens, il parle avec les gens. Alors, on peut voir ça comme un populisme. C'est la première fois dans l'histoire de ce pays que le président parle aux gens normaux.
Gobierno bolivariano. Ahora puedes decidir cómo quieres que sea el programa con mayor audiencia en la televisión venezolana. Escríbenos tus ideas en no más de una cuartilla al alopresidente@msi.gov.be o a través de las páginas web de Venezolana de Televisión, FENPRES y Radio Nacional de Venezuela. Gracias a ti, vuelve en el 2005 Aló Presidente, reflejo de la expresión de todo el país. Gobierno bolivariano.
Juste, il faut se souvenir ce type de contact direct avec le peuple. C'est Roosevelt qui l'a inventé dans les années 30. Et une chose qu'on oublie souvent de dire, c'est que Bush, toutes les semaines, fait une émission à la radio pour l'ensemble des États-Unis, où il cause également. Autre chose, la plupart des dirigeants latino-américains, on critique Chavez, et on a le droit, bien entendu, de le faire, mais encore une fois, allons voir ce qui se passe au pays voisin, là, en Colombie. Tous les samedis, Uribe fait une émission de 8 heures en direct avec le peuple. Tous les samedis, il est dans un village, dans une petite ville, etc. Il reçoit les gens. La chaîne nationale qui est beaucoup plus importante d'ailleurs que celle du Venezuela, eh bien, est branché sur Uribe, déguisé en, je sais pas s'il porte des chapeaux paysans, etc. Et dans ce pays où on assassine tous les mois 2000 dirigeants humanitaires, syndicalistes, etc., monsieur Uribe parle à son pays pendant 8 heures tous les samedis. Ça, personne ne le note, personne ne traite Uribe de dirigeant populiste ou dirigeant infréquentable.
Voilà, finalement, on se demande pourquoi cette focalisation anti-Chavez. Je pense aux médias français, ou du moins une partie qui va en se réduisant, s'amenuisant à des médias français.
Ben oui, évidemment, le référendum du 15 août a provoqué une véritable déroute médiatique, une débâcle. On a vu le lendemain des éditorialistes de grands journaux quotidiens se contorsionner.
De l'après-midi, du matin.
De toute la journée, hein. Se contorsionner pour essayer de trouver des explications à ce qu'ils avaient absolument pas prévu. Les lecteurs s'attendaient évidemment, s'il n'avait que ça comme source d'information, une déroute totale de Chavez. C'est l'inverse qui s'est produit. Donc il a fallu trouver, improviser des nouveaux concepts, par exemple le national-populisme. Mais en fait, je crois qu'au fond, ce qu'on lui reproche, c'est d'avoir réintégré, qui n'existe pas en France, d'avoir réintégré 100% de la population, y compris l'opposition, dans le champ politique.
Bien sûr. Vous demandiez, et je crois que c'est tout à fait pertinent, comment se fait-il finalement que les médias français, dont on peut imaginer qu'ils sont loin des passions vénézuéliennes, comment se fait-il que ces médias ont également intégré en partie cette passion? Mais comment ça se passe en fait? Il y a ici un processus de changement. Et avec l'opposition essentiellement, s'il n'y a pas d'opposition politique en raison de l'effondrement des partis traditionnels, ce sont les médias qui ont assumé cette fonction pendant des années, et d'une façon très spectaculaire, très sensationnelle. Il faut voir, il suffit de lire encore la presse actuellement, même si elle est déjà plusieurs tons en dessous. Chavez était qualifié de Hitler, attirant, en passant par génocideur, etc. C'est à peu près les adjectifs qu'on utilisait tous les jours contre lui. Eh bien, il est clair que quand des journalistes venaient ici pour se faire une idée du processus, cette influence médiatique massive, 6 chaînes sur 7, tous les grands journaux, etc., eh bien, donnaient déjà une impression. Deuxièmement, les journalistes qui venaient ici, qui allaient-ils voir? Mais très souvent, les gens qui parlaient français, les intellectuels, etc., dont on a dit tout à l'heure qu'ils avaient été et qu'ils ont été et qu'ils sont le fer de lance de l'opposition et qui ont divulgué cette version. Par ailleurs, une organisation comme Reporters sans frontières, qui peut être efficace sur un certain nombre de terrains, mais ici, ça a été la Bérésina de Reporters sans frontières. Car Reporters sans frontières ici, c'est totalement branché sur, disons, les plus extrémistes, sur les médias qui ont conduit le coup d'État, qui ont participé au coup d'État, relayant ces thèses partout, à travers le monde. Une influence totalement nocive, c'est-à-dire que Reporters sans frontières au Venezuela a fait partie de l'esprit putschiste qui a régné ici. On a réclamé le coup d'État, on a poussé les forces armées à faire un coup, et ce sont les médias qui le faisaient, et a relayé l'idée que la liberté de presse était bafouée, que les journalistes étaient menacés, ce qui n'a pas été le cas. Et quand le coup d'État s'est produit, il suffit de se souvenir que Reporters sans frontières n'a pas condamné les agressions contre les journalistes qui étaient chavistes, la fermeture des stations de radio chavistes qui se sont produites pendant 48 heures. Donc tout ça a contribué à créer une atmosphère où effectivement ce régime a pu passer à un moment en Europe. Si vous ajoutez la social-démocratie européenne, une grande partie des médias, des organisations de type Reporters sans frontières, des organisations en Amérique latine comme la CIP, le syndicat interaméricain de presse, qui est l'association des patrons de presse à l'échelle internationale, ça fait un écho, effectivement, où il y avait presque unanimité pour dire que ce pays était gouverné par un tyran populiste.
Desde el tiempo colonial, mi alma es latina, este es mi nuevo cantar.
Hola, sans doute fait comme tout le monde, on a sans doute beaucoup trop parlé de Chavez dans cette émission, parce qu'il n'y a pas que Chavez, vous avez parlé des habitants des quartiers défavorisés, qui sont les plus nombreux dans cette ville, mais il y a aussi tout ce qu'on pourrait appeler une movida, c'est-à-dire qu'il y a tout un mouvement de jeunes, de très jeunes, qui se mobilisent, qui essayent de faire des tas de choses en communication, en télé, en presse, dans des tas de formes d'expression. Ça bouge de tous les côtés. Il y a une jubilation, il y a une sincérité, il y a un espoir formidable dont on n'a pas beaucoup de traces hein, dans nos médias en France. On est tous sur Chavez. Est-ce que c'est un tyran, pas un tyran? Ok, c'est une grande question. Est-ce que c'est un despote ou pas? Est-ce qu'il va virer au despotisme? C'était une grande question. Ça, on verra bien. L'avenir nous le dira. Mais on oublie complètement cette effervescence.
Ah oui, absolument. En particulier en matière médiatique, il faut voir le développement extraordinaire des médias alternatifs, des médias communautaires, qui ont d'ailleurs été légalisés, renforcés par une loi qui leur donne des droits et des pouvoirs. Il y a une chaîne de télévision qui vient d'être créée, qui s'appelle Vive, que vous avez pu peut-être regarder, qui est extraordinaire, où on donne la parole aux communautés indigènes dans leur langue, dans leur façon de voir. Ça n'avait jamais existé. Ce sont des communautés qui se sentent désormais reconnues. Et il faut lire la constitution bolivarienne sur les indigènes. C'est la première constitution qui reconnaît, mais formellement, les droits des indigènes en matière linguistique, en matière éducative.
Il y a des sièges réservés, d'ailleurs, pour les peuples premiers.
Oui. Pour les peuples premiers, ce que Chirac appellerait les peuples premiers. Et ces médias, eh bien, ils ont leur dynamique propre. Ils sont pas chavistes comme ça par décret. On leur a ouvert des espaces de communication dont ils profitent et qui deviennent autonomes, qui sont autopropulsés. Et Chavez n'y peut rien. Là. Ça avance tout seul.
Gobierno bolivariano.
Voilà, c'était le Allô Présidente de Ignacio Ramonet et Bernard Cassel. C'est-à-dire qu'on a parlé de tout ce qu'il n'y a pas dans le monde diplomatique de ce mois-ci, hein, de ce mois de décembre. Parce que c'est quand même le but de cette émission, ça a toujours été de parler de ce qu'il y a dans le numéro. Or là, c'est tout ce qu'il n'y a pas dans ce numéro, mais il y a quand même, Ignacio Ramonet, vous tenez à le dire.
Ah, je dirais qu'il y a un numéro formidable. non. Un numéro tout à fait indispensable où il n'est question ni de Cuba, ni du Venezuela.
Ça nous rassure.
Excelentísimos representantes del cuerpo diplomático, honorables visitantes, distinguidos invitados, queridos compatriotas, ha concluido el acto. Por su amable atención y asistencia, muchísimas gracias.
Voilà, merci à tous depuis Caracas, merci à Bernard Cassen et à Ignacio Ramonet. Je pense que ça va chauffer sur le répondeur de là-bas si j'y suis, au 01-56-40-37-37, 01-56-40-37-37. Évidemment, dans les reportages que nous rapportons du Venezuela, il y aura d'autres sons de cloche, évidemment. On se retrouve demain à 17h pour là-bas si j'y suis. Merci à tous. On quitte Caracas, là, pour l'intérieur du pays, voir ce qui se passe en matière de réforme agraire, qui est un énorme dossier, un énorme sujet particulièrement violent et brûlant dans ce pays. À demain.
C'était le Diplo enregistré à Caracas à l'occasion des rencontres mondiales d'intellectuels et d'artistes. Merci à Ignacio Ramonet, Bernard Cassen et à l'équipe du mensuel Le Monde Diplomatique. Et nous vous renvoyons bien sûr au Monde Diplomatique du mois de décembre. À noter ce soir au Forum des Images Métro Châtelet-Léal à Paris, la projection du documentaire Les Réquisitions de Marseille, suivi d'un débat avec Raymond Aubrac et Robert Mancherini. Plus d'informations à votre disposition sur le site de là-bas, si j'y suis, en allant sur franceinter.com. À la technique ce soir, Jean-Philippe Jeanne et Mathias Saléon, réalisation Antoine Chao, assisté de Yann Chouquet et Pascal Pascariello, chef du répondeur Christophe Imbert. Si vous souhaitez réagir à cette émission, vous avez plusieurs possibilités. Le répondeur de là-bas, si j'y suis, 01 56 40 37 37 ou l'email daniel.mermet@radiofrance.com. Prochain rendez-vous avec Daniel Mermet, c'est bien sûr demain à partir de 17h.
Gobierno bolivariano.